Alors, je me présente rapidement, je suis sociologue ou socio-anthropologue, je préfère me désigner comme socio-anthropologue, mais à l'Institut Télécom, et chercheur aussi associé au Centre d'études des techniques, des connaissances et des pratiques de l'Université de Paris 1, qui est un centre pluridisciplinaire, qui regroupe des anthropologues, des philosophes, historiens, sociologues, qui travaillent sur les objets techniques. Des problématiques qui sont toutes afférentes à des objets techniques, avec un certain nombre de chercheurs, aussi de jeunes chercheurs qui travaillent sur les questions environnementales, des problématiques liées à l'écologie. Alors, pour ma part, j'ai eu mes recherches pendant très longtemps dans le domaine aéronautique, donc on est assez loin là, du développement durable. Apparemment assez loin. De moins en moins, puisqu'on voit que l'aéronautique quand même est très impliquée aussi dans ces questions d'environnement. Mais moi, j'ai travaillé surtout sur les questions liées à l'automatisation des avions. Donc à l'époque, c'était les premiers Airbus, c'était les premiers avions informatisés. On dirait aujourd'hui numérisés. On passait de technologies analogiques qui mobilisait d'une certaine manière le corps à des technologies informatiques, informationnelles, numériques, qui mobilisaient autrement le corps, mais quelque part réduisaient énormément le rôle et la place du corps et des sens dans l'activité de pilotage. Donc j'ai travaillé beaucoup sur les questions de relations de machines, sur la manière dont les pilotes ont pris en main ou pas, se sont appropriés ou pas. Ces automatismes, ces ordinateurs qui sont très nombreux, il y en a des centaines dans un Airbus. J'ai travaillé aussi après beaucoup sur la simulation, les usages de la simulation, l'usage et représentation de la simulation dans l'aéronautique, toujours civile, pour la formation des pilotes de ligne, mais également dans un but plus expérimental, dans le contrôle aérien, dans l'aviation aérienne par exemple. Donc j'ai fait ma thèse là-dessus, à l'époque c'était on parlait de technologie virtuelle et tout comme ça. Et puis plus récemment, je travaille sur... j'ai deux axes de recherche. D'une part les technologies qu'on pourrait qualifier de sécuritaires, c'est-à-dire les technologies en gros de vidéosurveillance, mais de nouvelle génération, c'est-à-dire dites intelligentes, comme à l'époque on parlait d'avions de nouvelle génération, et d'avions intelligents, c'est-à-dire avec des systèmes embarqués. Donc je travaille sur ces technologies qui sont en train de se développer très vite, pour lesquelles il y a des investissements énormes, qui sont faits par les industriels, et qui consistent en gros à développer des algorithmes. Des algorithmes de reconnaissance des individus, mais aussi de reconnaissance et d'identification de comportement. Donc, ce qu'on appelle des algorithmes comportementaux. Et ça pose évidemment un grand nombre de questions sociologiques, anthropologiques, éthiques et également juridiques. Et puis je travaille parallèlement sur l'e-santé, on va dire. Global, comme ça. Donc, sur les technologies numériques ou pas, ça peut être aussi la robotique personnelle par exemple, mais destinée à soutenir par exemple, c'est comme ça que c'est présenté, à soutenir les personnes en perte d'autonomie à leur domicile. C'est-à-dire, par exemple, pour régler un certain nombre de questions posées par vieillissement, le grand âge, l'isolement. Ça implique aussi, et là ça se rapproche un petit peu plus de votre domaine, ça implique aussi par exemple la maison domotique, l'automatisation de l'espace privé, de l'espace domestique, de l'espace intime. Et là ça pose aussi d'autres questions très importantes, encore une fois sociologiques, anthropologiques et éthiques. Voilà. Pour ma présentation. Alors, l'acceptabilité sociale, je vais peu en parler parce que c'est une notion qui qui fait peu sens en sociologie, qui provient plutôt de l'ingénierie et de l'économie, du calcul rationnel des risques, de l'évaluation des freins et des verrous, pour parler en langage ingénieur, de l'adéquation de l'offre à la demande ou de la définition des besoins. Bref, c'est une notion qui consiste souvent à penser l'activité sociale, l'autonomie sociale et l'usage avec les lunettes et dans le référentiel de l'ingénieur, c'est-à-dire principalement en termes d'adaptabilité, d'anticipation, de programmation ou de résolution de problèmes. Moi, je suis sociologue, je ne résous pas des problèmes, j'en pose beaucoup, j'espère que je pose des questions et je résous rien. En revanche, la question de l'acceptabilité sociale est bien intéressante si on la replace dans le contexte du changement social, c'est-à-dire de la nécessité dans laquelle nous nous trouvons actuellement de repenser, par exemple, nos modèles énergétiques, nos habitudes de consommation et plus généralement nos manières de vivre et d'être. En s'interrogeant particulièrement sur le rôle que peut bien jouer la technologie dans cette perspective-là de changement social. La technologie peut-elle soutenir, porter ou simplement accompagner de tels changements? Peut-elle les susciter? De quelle manière? Ou ne fait-elle que réfléchir finalement l'état de nos croyances? Et je pense en particulier ici au déterminisme technique qui nous conduit trop souvent à penser le changement social sous l'angle de l'innovation technique. D'ailleurs, on parle de plus en plus aujourd'hui d'innovation sociale, comme si on pouvait faire de la R&D sociale. Donc voilà des questions qui me semblent intéressantes. Je pense qu'elles nous conduisent à réfléchir conjointement au statut, par exemple, de l'usager. Bon, moi, je viens un peu aussi de la sociologie des usages, hein. J'en parlerai tout à l'heure. Donc elles nous amènent à réfléchir conjointement au statut de l'usager, aux relations de l'usage à la conception, à la pertinence, par exemple, d'une telle séparation entre usage et conception, ou encore aux caractéristiques des technologies qui nous entourent et constituent de plus en plus notre nouvel environnement naturel, entre guillemets. Ce que je propose donc de faire ici, c'est superficiellement, c'est le point sur la question du statut de l'usager dans les dispositifs que je qualifie ici d'intelligents, dits intelligents. Je vous en ai donné quelques exemples tout à l'heure, hein, donc, les automatiques, les avions avec une intelligence embarquée, façon de décliner ça. Et au-delà, ce qui va m'intéresser, c'est le type de sujet d'humain qui est engagé dans ces nouveaux couplages d'objets techniques et d'humains. Donc je vais vous parler en gros du statut d'usager à l'époque ou à l'ère des technologies intelligentes. Alors comme je sais que le thème de la transition énergétique, donc à travers le développement durable, en rapport avec la transformation de notre espace urbain et de notre habitat, une question qui entre dans le champ de réflexion de ces journées, je vais, bien que je ne sois pas spécialiste, je vais essayer de centrer aussi un petit peu mon questionnement sur le thème autour du thème de l'énergie. Du thème de l'énergie en relation avec les objets qu'on appelle communicants, et qui sont susceptibles peut-être d'infléchir ou de modifier nos comportements, nos habitudes, et certains le pensent dans le sens, par exemple, d'une plus grande sobriété énergétique. C'est un petit peu les points que j'ai essayé d'aborder dans mon bref exposé. Alors, pour être franc, je vais surtout mettre l'accent sur les aspects peut-être les plus désagréables de cette relation, de ce couplage objet-humain. Désagréable. Donc je vais insister peut-être sur les aspects les plus désagréables, sur les déséquilibres et les asymétries qu'il y a dans cette relation des usagers, des êtres humains, à ces nouveaux objets. Non par réflexe technophobe, ou par paranoïa, mais plutôt pour avertir, pour mettre l'accent sur certaines tendances lourdes de nos sociétés qui continuent d'œuvrer souterrainement, et d'orienter aussi nos choix technologiques, c'est-à-dire aussi, derrière nos choix technologiques, nos choix de société. Donc, pour le dire trivialement, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je vais parfois enfoncer des portes ouvertes, mais uniquement justement pour les garder, essayer de les garder ouvertes, ces portes. Pour simplifier à l'extrême mon propos, la première question que je vais me poser, que je me pose, se résume à celle-ci. Si les objets deviennent des sujets, ou des quasi-sujets, c'est-à-dire des objets capables de prendre des décisions, de porter des jugements, peut-être d'apprendre, d'interpréter des situations, les sujets ne deviennent-ils pas, de leur côté, de plus en plus semblables à des objets ? Donc c'est un peu provocateur, ça va résumer un petit peu le sens de mon propos, qui ne se veut pas du tout impartial. Alors, l'historien des techniques Thomas Hughes remarquait déjà que dans les grands systèmes techniques autour desquels sont organisées nos sociétés, le système agit de plus en plus, alors que l'humain est appelé, de façon dans un premier temps indolore, à devenir le surveillant de processus qui se déroulent hors de lui et dont la compréhension, très souvent, lui échappe. Et j'entends ici compréhension au sens fort du terme, celui qui consiste à prendre, à avoir des prises sur son environnement immédiat, d'être en prise avec lui. Ça implique aussi le rôle de la main et du corps. Avec les objets dits intelligents, cette problématique des prises, on pourrait renvoyer aussi à celle de la question de l'autonomie de l'usager, semble avoir été résolue et en partie dépassée. La plupart des argumentaires en faveur des smart technologies, par exemple, mettent en effet en avant le gain d'autonomie qu'elles procurent à l'usager. Dans le domaine de la santé, par exemple, les vêtements intelligents sont censés donner les moyens à la personne qui les porte d'avoir directement accès aux informations sur sa santé sans recourir à l'avis d'un médecin. Les données recueillies, c'est-à-dire de l'actimétrie, rythme cardiaque, la taux de glycémie, tout un tas de choses, sont directement analysées à travers des logiciels, traduites et accessibles à la personne sur son ordinateur. Dans ce modèle-là, on voit que l'institution médicale et le pouvoir médical sont pour ainsi dire court-circuités par une relation qui se veut directe, immédiate, sans autre médiation que technique, du patient au savoir médical. Dans une sorte de procédure comme ça, de self-management, qui est aussi très intéressant à interroger. Dans le domaine de l'énergie, les compteurs évolués, type Linky, doivent permettre à l'usager de gérer sa consommation en temps réel et au plus près de ses besoins, en ayant directement accès aux informations du réseau. Dans tous ces exemples, ces cas, la décentralisation d'information qu'autorise l'architecture en réseau est censée redonner à l'usager la maîtrise de son environnement. Elle doit lui permettre de reprendre la main. Et l'attendu, implicite aussi derrière, est clairement politique. C'est le désir d'autonomie de l'usager qui est visé dans ce discours. Smart technology devient alors synonyme d'une approche plus bottom-up contre une approche top-down, résolument dépassé et archaïque, antidémocratique, autoritaire et vertical, bref, on pourrait dire aussi taylorien. Alors, ce principe d'une démocratie directe par la grâce du réseau technique, évidemment, n'est pas neuf, participe par exemple à ce que Philippe Breton a désigné par utopie communicationnelle. On peut retracer toute l'histoire et remonter au XIXe siècle jusqu'aux écrits de Saint-Simon. C'est pas l'objet. Or, évidemment, ce qu'on observe dans la réalité est un peu différent. Les promesses d'autonomie ou d'émancipation de l'usager sont souvent, pas souvent au second plan, parfois vite oubliées, alors que l'idée, le principe de contrôle, ne cesse curieusement de progresser. Donc, il y a, voilà, une sorte de décrochage, décalage entre les attentes, les discours et puis ce qu'on peut observer. La décentralisation effectuée de l'information, ou sa redistribution sur le réseau, n'a par exemple jamais totalement remplacé les structures et les logiques centralisatrices existantes. Elle contribue même, dans bien des cas, à les renforcer, comme le montre déjà la constitution de gigantesques data centers dans le cas du cloud computing, qui consommerait ces big data à ces data centers aujourd'hui autant d'énergie que ce que consomme électrique que tout ce qu'on consomme la France en une année. Les coûts d'installation et de maintenance de ces centres, rendent d'ailleurs presque obligatoire leur contrôle par de puissants groupes d'intérêt, par de grandes organisations. De la même manière, les algorithmes qui équipent ces nouveaux objets et les rendent justement intelligents restent pour l'usager des boîtes noires. Je reviendrai ainsi sur ce point tout à l'heure. De l'intelligence des objets, nous sommes donc inexorablement ramenés du côté de l'intelligence des systèmes et notamment de la logique de contrôle des flux, de gestion de flux et de contrôle de ces flux, qui figure au centre de ce que nous on appelle, en sociologie technique, des macro-systèmes techniques. Et là, il faut distinguer, le macro-système technique du réseau, parce qu'on a tendance à confondre ces notions, à les assimiler l'une à l'autre, et c'est pas, ça ne recouvre pas la même réalité. Des réseaux, grosso modo, il en existe depuis toujours. Des réseaux sociaux, une communauté villageoise, c'est un réseau social. Des réseaux physiques, il en existe aussi depuis toujours. Des réseaux de routes, on n'a qu'à prendre le réseau de routes, les routes romaines, par exemple, qui quadrillaient l'Empire. C'est un réseau de routes. La différence avec le macro-système technique, c'est-à-dire les réseaux techniques dont on parle aujourd'hui, c'est plutôt tour à tour de la notion de gestion de flux et de contrôle de ces flux. Un cavalier romain qui se déplace sur une route, sur les routes romaines, il peut arrêter son chemin quand il veut, sortir de la route, aller se balader. Voilà, il est relativement libre de ses déplacements. Un avion ou un train qui circule sur un réseau physique, une route, un réseau ferré ou un réseau de navigation aérienne, évidemment, lui, il n'est pas du tout autonome, il n'est pas du tout libre. Il est guidé depuis des nœuds de communication, qui sont aussi des points de contrôle, où converge l'information, toute l'information sur le réseau. Ça, c'est toute l'histoire du macro-système technique. Le modèle du macro-système technique, évidemment, c'est le réseau ferroviaire. Je ne vais pas refaire l'histoire de ce réseau-là, mais il est très lié aussi au développement des technologies de communication, puisqu'il s'agissait évidemment d'avoir une image en temps réel de toutes les entités qui circulaient sur le réseau physique, pour éviter en particulier les télescopages et les accidents. On a développé parallèlement les technologies de communication, les télégraphes, pour avoir cette information en temps réel à partir de centres, de postes qu'on appellera de postes d'aiguillage. Donc la circulation des entités est régulée depuis des postes de contrôle. C'est la même chose, c'est ce même modèle qu'on retrouve dans les transports aériens, dans la navigation aérienne. À part que là, on est dans un espace en trois dimensions et que les routes, on ressent plutôt des tuyaux, c'est des volumes. Mais voilà ce qu'on appelait autrefois, c'est pour ça qu'on appelait autrefois les contrôleurs aériens, les aiguilleurs du ciel, en référence au train. Voilà, les avions ne circulent pas librement dans le ciel, ils empruntent toujours les mêmes routes, passent toujours plus ou moins par les mêmes points, et sont guidés à partir de centres de contrôle en route délocalisés, évidemment, à très grande distance de ces avions. Donc là, voilà, c'était juste pour distinguer réseau de macro-système technique. Moi, ce qui nous intéresse le plus, ce sont évidemment les macro-systèmes techniques, qui n'excluent pas les réseaux, qui peuvent s'appuyer sur eux, et aussi parfois des instruments techniques de débat. Donc, les smart grids, par exemple, ou les réseaux intelligents, pour parler de l'énergie, sont ainsi censés responsabiliser les usagers en instaurant un rapport plus personnalisé à leurs dépenses énergétiques et en accordant plus d'autonomie à l'usager dans la maîtrise de sa consommation. L'accès par l'usager au niveau local de l'information disponible sur le réseau doit permettre d'augmenter, c'est un autre terme dans la note, ça, l'augmentation, doit permettre d'augmenter sa propre intelligence en lui donnant aussi accès à une vision d'ensemble du réseau, c'est-à-dire en lui donnant accès au niveau global. Alors tout ça sonne bien à l'oreille de l'individu moderne, qui est aussi pris d'autonomie, et surtout qui est parfois transi d'effroi à l'idée qu'une quelconque contrainte sociale puisse venir l'entraver. On attend donc de cette nouvelle autonomie qu'elle transforme les usagers en véritables acteurs de leur consommation, qu'elle introduise de la réflexivité dans l'habitude, dans les habitudes, dans les actions routinières, pour mieux agir dessus et aussi pour les changer. L'objectif étant toujours le passage à une forme de sobriété énergétique, de comportement plus responsable. Alors, les futurs réseaux intelligents, toujours on reste dans l'énergie, peut-on parfois lire, repose ainsi sur l'articulation, et là je cite un gros projet actuel sur ces réseaux intelligents en matière d'énergie, sur l'articulation entre les consommateurs, ce qu'on appelle les consommateurs acteurs émergents et des systèmes automatisés et domotiques afin d'améliorer la maîtrise de la demande d'énergie. Alors je vais essayer d'interroger ces notions, c'est-à-dire l'articulation entre les consommateurs acteurs émergents et des systèmes automatisés et domotiques. D'abord l'articulation entre consommateurs et acteurs. Alors, un consommateur, il est avide de satisfaire de manière plus souvent compulsive des désirs. Évidemment, faire des économies peut apparaître comme une motivation suffisante, mais nous savons que ce n'est pas le cas, que le consommateur ne fonctionne pas sur le modèle de l'acteur rationnel, que ce sont les logiques de différenciation sociale qui dominent dans la consommation. Et tout le marketing moderne est bâti sur l'instrumentalisation de cette logique du désir et de ces déterminismes sociaux. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est quel type de sobriété peut-on espérer fonder sur une telle base? Si le consommateur est bien un acteur, c'est un acteur agi de l'extérieur par des stimuli, mais ce n'est pas vraiment l'acteur au sens où on pourrait l'entendre en tant qu'en sociologie, ou un sujet au sens politique du terme, un vrai citoyen, comme on dit aujourd'hui. Et ça m'amène à interroger donc le statut d'usager, justement, au sein de ces dispositifs techniques contemporains dits intelligents. De quel usager parle-t-on lorsque l'on propose d'intégrer très en amont l'usage de la conception, ou par exemple de promouvoir la conception participative? Alors, dans un long article publié il y a une dizaine d'années, la sociologue des usages Josiane Jouet proposait un premier état des lieux de la sociologie des usages au regard de ses évolutions les plus récentes. L'auteur commençait par rappeler la centralité du thème de l'autonomie sociale dans l'histoire des recherches consacrées aux usages. Il s'agissait de mettre en évidence, je la cite, le rôle actif de l'usager dans le modelage des emplois de la technique, sa capacité à contourner ou à réaménager, en fonction d'intérêts propres, les usages prescrits. De nombreuses recherches, fin de citation, de nombreuses recherches qualitatives et empiriques mettaient en lumière les pratiques dites de braconnage ou de détournement qui soulignent la part de créativité et d'autonomie des usagers de produits techniques. Ces recherches sur l'usager s'intéressaient aux technologies de l'information et de la communication, à commencer par le Minitel, qui était vraiment un terrain très important pour cette sociologie. Donc, technologies de l'information et de la communication qui étaient alors nouvelles et auxquelles on attribuait un fort potentiel d'émancipation personnelle et sociale. L'approche ethno-méthodologique qui analyse les usages en situation, ainsi que la sociologie de l'innovation, qui s'intéresse à l'objet technique en tant que médiation, mettaient de leur côté l'accent sur le caractère arbitraire du découpage entre usage et conception. C'est un découpage qui remonte, évidemment, comme vous le savez, au taylorisme. C'est un débat, un des piliers du taylorisme. Par rapport à ce projet initial, donc de la sociologie des usages, cette définition initiale des usages, Josiane Jouet relevait pourtant déjà un premier réfléchissement. La banalisation, à partir des années 90, des technologies de communication et d'information, en politique, avait abouti à une offre pléthorique de services. Les commandes de l'industrie pour des études ponctuelles, dont l'objectif était essentiellement de prévoir des usages et d'identifier les débouchés, avaient conduit à donner aux fonctionnalités techniques, avérées ou potentielles, une place centrale dans la définition de ces recherches. Locales, circonscrites à un objet et de courte durée, les recherches en usage témoignaient d'une perte progressive d'autonomie et de liberté dans le choix, la définition et le traitement des thématiques de recherche. Et le risque signalé par Josiane Jouet était celui d'une dérive qualifiée de techniciste de la sociologie des usages, et je crois que nous sommes aujourd'hui vraiment dans cette dérive techniciste de la sociologie, en tout cas, à bien des niveaux. Ainsi, donc, par rapport à la définition initiale de l'usager, ce qui semble avoir été perdu en route, ou en passe de l'être, c'est bien cette notion qu'il faudra travailler d'autonomie sociale, qui apparaissait à l'époque comme alternative à l'utilitarisme. À la fin des années 60, la sociologie des usages se donnait bien pour priorité d'identifier les formes de micro-résistance aux normes dominantes de la rationalité économique et du marché. Le contenu politique et critique du projet ressort nettement de l'intention de proposer un certain nombre d'alternatives à l'idéologie consumériste et notamment à la figure du consommateur. Donc la notion d'usager n'exprimait pas seulement un rôle actif dans le modelage des emplois de la technique, définition que j'ai donnée tout à l'heure, ou la capacité de détourner des usages prescrits par les industriels, par exemple. Elle sous-tendait aussi, par exemple, la liberté de ne rien faire, de ne rien faire d'utile ou même de socialement reconnu. Il entrait donc dans la définition de l'usage une part de gratuité. On va dire ça comme ça, faute mieux. La logique des usages, nous disait cette approche, n'est pas au service de quelque chose, de la technique ou des besoins de l'industrie, elle porte sa finalité en elle-même, qui est sociale, et qui renvoie finalement au désir d'être ensemble. Alors on voit bien la dérive qui s'est produite en quelques décennies, c'était très vite finalement. Aujourd'hui, pour de nombreux sociologues impliqués dans des processus ou des programmes d'éco-conception, qui sont en fait des programmes d'ingénierie sociale, il s'agit le plus souvent d'accompagner l'innovation technique, soit en éclairant le consommateur acteur, en le guidant vers les bons choix, soit en essayant d'identifier des besoins et en les traduisant, si possible, en spécifications techniques. Donc, premier point sur ce déplacement, ce glissement dans le statut de l'usager, en tout cas pour ce qui concerne ma discipline, c'est-à-dire la sociologie. Et c'est le glissement dont je parlais tout à l'heure entre l'usager et le consommateur acteur qui apparaît aujourd'hui dans les programmes liés par exemple au développement durable, au développement de réseaux intelligents en matière énergétique. La seconde articulation que j'évoquais tout à l'heure, celle établie entre système automatisé et domotique, apparaît tout aussi problématique. Un automatisme, par définition, c'est quelque chose qui se suffit à soi-même. Ça marche tout seul. Cette capacité à simuler l'autonomie des êtres vivants est d'ailleurs ce qui, au sens propre, fascine dans l'automatisme. C'est le propre aussi des machines issues de la cybernétique qui se présentent donc comme des quasi-sujets. Le pouvoir de séduction exercé par l'automatisme tient précisément pour une bonne part à la façon dont est escamotée et quelque part confisquée la question de la finalité, c'est-à-dire la question hautement politique aussi du sens. Cette question de la finalité dans les machines intelligentes, elle reflue dans l'acte de programmation. Mais un système automatisé est en même temps toujours un système normatif. Il continue de tenir évidemment sa finalité des êtres humains qui le conçoivent, c'est-à-dire le sujet, mais pas de n'importe quel sujet, ni de n'importe quelle façon. Il imprime et impose de l'extérieur un programme d'action, un comportement à tenir en fonction de règles et de critères définis par ceux qui l'ont conçu. Et c'était tout le débat au début, avec l'introduction des avions automatisés, intelligents, c'est tout le débat qui s'est très conflictuel, hein, qui s'était posé, enfin, qui avait eu lieu entre les ingénieurs, les industriels, Airbus, et les pilotes. Puisque les pilotes désignaient les ordinateurs de bord, c'est-à-dire les systèmes intelligents embarqués, comme le troisième homme à bord, mais un homme qui avance masqué. Et puis, évidemment, qui n'est pas impliqué dans le vol de l'avion qui ne prend aucun risque. Le troisième homme qui avance masqué, c'était évidemment les ingénieurs de conception des bureaux d'études d'Airbus qui étaient visés par ces propos des pilotes. Et il reprochait en particulier à ces ingénieurs de montrer beaucoup de choses sur les écrans, mais de montrer ce qu'ils avaient décidé en fonction de critères qui n'étaient pas forcément transparents, qui étaient rarement, de montrer ce qu'ils avaient décidé, eux, être important de montrer. Ce qu'ils avaient considéré, eux, comme être important de montrer, n'était pas forcément ce qui était important ce qui paraissait important pour les pilotes en situation de vol. Donc voilà, tout le conflit était structuré autour de cette plus qu'une controverse, hein, c'était très polémique, entre cette définition de ce qui devait être montré, ce qui pouvait être montré ou pas aux pilotes à travers les dispositifs informatiques. Donc, la question que je me pose, c'est celle de la nature exacte de cette autonomie de l'usager, celle que l'usager est censé recouvrer avec ces technologies intelligentes, dès lors que celles-ci sont pensées par d'autres, et alors même que... Alors, je sais bien que ce n'est pas toujours vrai, elles ne sont pas toujours pensées par d'autres, mais moi, je mets l'accent là-dessus. Là. On pourra parler après de plein d'autres choses, open source, tout ce que vous voulez, mais... Donc, alors même qu'elles sont pensées par d'autres, et alors même que la simplicité d'usage de ces objets contribue à rendre invisible leur haute technicité. Ce qui doit ici attirer l'attention et inviter à la prudence, c'est, me semble-t-il, l'apparente proximité qui existe entre, d'une part, les revendications d'autonomie et de reconnaissance qui montent de la société civile, et d'autre part, des technologies dont on attend qu'elles personnalisent la relation aux grands systèmes qui nous entourent, qui sont froids, abstraits, un peu centralisateurs, mais qui continuent en réalité de s'inscrire, ces technologies, dans de vieux paradigmes centralisateurs. Donc il faut faire la part des choses. Cette apparente proximité est sans doute à la source de nombreuses confusions, comme celle entre une émancipation effective, qui ne peut se réaliser que dans le temps long de l'apprentissage, et qui comprend toujours un coût et un effort, et l'image de l'émancipation donnée par exemple dans la simplicité ou le confort d'usage de ces nouveaux objets, donnée aussi dans leur valeur d'ambiance. Je reviens un peu sur cette notion d'ambiance qui avait déjà été bien mise en évidence par Jean Baudrillard dans les années 60, le système des objets. Je crains donc qu'avec les technologies intelligentes, cette question de la finalité, celle de savoir qui décide de quoi, soit rendue encore un peu plus opaque et un peu plus méconnaissable. Les critères de commodité ou de confort finissent en particulier par prévaloir. L'ergonomie des interfaces, l'esthétique ou le design, la vitesse de connexion, la capacité de stockage, tout ça devient prioritaire. Alors, j'ai rien contre le design, l'esthétisation des techniques, c'est pas de ça dont il s'agit. D'ailleurs, les techniques dans les sociétés qu'on appelle traditionnelles, par exemple, ont toujours été l'objet d'un important travail symbolique ou esthétique qui était assorti à leur fonction. On peut dire que la fonction pratique des objets était subordonnée à leur dimension symbolique, à leur signification sociale et symbolique, jusqu'à limiter dans certains cas d'ailleurs cette fonction pratique. Mais ici, c'est d'autre chose qu'il s'agit. Le design peut être détourné pour dérober au regard et à la conscience de l'usager un processus de rationalisation qui est en fait hégémonique pour dissimuler aussi des structures de pouvoir. Bon, dans le cas des pilotes, c'était clairement la prise de pouvoir par les ingénieurs et par les industriels de l'activité de pilotage. Et c'est clairement le cas aujourd'hui, puisque les avions, bon, les pilotes jouent souvent un rôle prépondérant, je ne vais pas entrer dans les détails, mais l'automatisation continue de progresser et on arrive maintenant à l'option drone, c'est-à-dire l'avion sans pilote. On voit bien dans quelle direction ça va. Je travaille aussi sur les opérateurs de drones, ça tombe bien, qui sont des pilotes de demain, qui ne sont plus des pilotes d'ailleurs, qui se considèrent eux-mêmes comme des opérateurs de plateforme. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, ces objets, donc intelligents, semblent parfois constituer une sorte de second milieu naturel dans lequel il n'y a plus qu'à se couler. Bref, un monde qui propose un monde qui serait, là je fais un peu de provocation, un monde qui serait vécu sans problème. Voilà. En aparté, un monde vécu sans problème, c'est la définition donnée par Georges Canguilhem, philosophe Georges Canguilhem, à l'ordre vital. En opposition, qu'il opposait, lui, à l'ordre social, où la norme, parce qu'elle est toujours le produit d'une distance, d'une décision, d'une délibération, est quelque chose qui, justement, ne va jamais de soi, pose toujours problème. Alors, pour filer à la métaphore, ces technologies collent littéralement à la peau, n'existent plus à proprement parler en tant qu'objet, artefact ou technique. Et en aparté, je réfléchissais assez hier, il y a peut-être ici d'autres manières justement de pratiquer le design, et qui consisterait par exemple, à rendre au contraire cette fonction technique, artifice, quoi, apparente, à faire que l'objet résiste, au lieu de le faire disparaître, y compris dans sa technicité. Donc là, il y a une réflexion aussi qui est menée, les designers. Alors, pour revenir au thème de la sobriété énergétique, il me semble que l'on aurait tout intérêt aussi à faire en sorte que notre rapport à l'énergie fasse, par exemple, à un moment ou à un autre, problème. C'est-à-dire, n'apparaisse plus justement sous la forme d'un donné naturel, mais implique une démarche, un effort, une dépense, et ça me permet de dire deux mots aussi sur l'effet rebond. Cette naturalisation, on va appeler ça comme ça pour le mieux, cette naturalisation des nouveaux objets est, par exemple, à mon avis, un des facteurs qui peut entrer en ligne de compte pour expliquer ce qu'on désigne aujourd'hui par effet rebond, dans le contexte des habitats intelligents. L'effet rebond exprime le ratio du bénéfice perdu par rapport au bénéfice escompté de ces habitats pour l'environnement. D'autres termes, les nouveaux habitats libèrent de nouveaux espaces et de nouvelles pratiques de consommation qui viennent compenser, voire annuler les effets attendus de ces dispositifs. L'une des explications à ce phénomène est que l'effet rebond est la réponse finalement automatique à un environnement de plus en plus automatisé, qui agit et pense pour nous, et de ce fait libère de nouvelles attentes en proportion de celles qu'il satisfait. L'autre explication, complémentaire de la première, est qu'en rendant la relation aux objets qui nous entourent plus transparente à l'usage, les technologies intelligentes rendent la dépense énergétique et l'énergie elle-même, à proprement parler, intangible. Confort d'utilisation, simplicité d'usage, commodité, maintien de l'énergie, comme tout ce qui contribue à la produire et à acheminer, à l'état d'éléments en mieux. Et donc ma crainte ici avec ces technologies, c'est et donc qu'elles nous confortent dans la croyance en une sorte justement de naturalité de la technique qui est peu propice au changement, comme à la créativité ou à toute forme de prise de conscience de cette réalité de l'énergie. Alors là, je m'avance en terrain peu connu, il faudrait voir plus en détail ce qui se passe par exemple au niveau des collectifs d'usagers qui revendiquent ces technologies et qui s'en réparent. Je n'ai pas très bien directement, prudence quand même. Je veux juste attirer l'attention sur quelques piège tendu par ces dispositifs. À ces différentes dimensions de l'objet, s'ajoute enfin ce qu'on appelle la domotique, qui envoie la domus, demeure. C'est-à-dire à la question au fait que la normativité technique dont je viens de parler agit cette fois depuis l'intérieur de l'espace privé ou domestique des personnes, au niveau de leurs faits et gestes, de leurs habitudes, de leur manière d'être au quotidien. C'est cet aspect-là qui me paraît important. Alors, c'est déjà le cas. Il y a un grand nombre d'appareils électroménagers qui ont investi depuis longtemps dans les foyers. La différence tient aujourd'hui au fait que ces appareils communiquent entre eux, font système et interagissent en permanence avec nous. Ce qui veut par exemple signifier qu'ils communiquent avec l'extérieur, le grand réseau, fournissent des informations précises sur nos mouvements, nos préférences, nos habitudes, à notre insu ou non. Partout, des traces. Rejoint la problématique de la trace. Partout des traces sont laissées, qui restent, il s'agit de traces physiques, les traces qui restent sont stockées quelque part. Par qui, pourquoi, dans l'intérêt de qui, voilà, c'est vraiment une question urgente, brûlante aujourd'hui. Alors on voit que ces questions juridiques et éthiques, qui touchent au type de contrôle impliqué dans ces technologies, sont loin d'être négligeables. Et elles interrogent aussi les fondements d'un sujet de droit. Mais il existe aussi d'autres questions, peut-être moins visibles, mais tout aussi importantes, sur le plan en tout cas sociologique, anthropologique. Et je pense par exemple au type de relation tautologique au réel qui se mettent en place au détour de ces dispositifs de capture des traces que nous laissons un peu partout. Comme je l'ai déjà dit, la mise en réseau des objets et des humains permet de recueillir et de traiter en temps réel quantité d'informations très précises sur les domaines les plus variés maintenant de l'existence quotidienne. Et ça donne par exemple lieu à de nombreuses recherches qui visent à modéliser les comportements collectifs et individuels pour les rendre plus prévisibles les humains étant désormais considérés comme la principale source d'incertitude à maîtriser. On peut citer le cas des recherches menées par l'Université de Boston, par exemple, sur les déplacements des personnes. On a généré la quantité maintenant, enfin, ça va être juste, hein, quantité de recherches dans ce domaine. Donc à partir des données recueillies sur 50 000 heureux propriétaires de smartphones, a été élaborée une cartographie dynamique de leurs déplacements. Les informations fournies par géolocalisation débouchent ici sur la fabrication de modèles destinés à anticiper les comportements et éventuellement à les infléchir à partir d'algorithmes qui vont épouser ces mêmes habitudes, s'appuyer sur elles. Et on se trouve ainsi devant une sorte de jeu de miroir dans lequel le réel est amené à se réfléchir indéfiniment. Les moteurs de recherche sur Internet ont par exemple recours aussi à des algorithmes d'indexation lexicale, mais ces derniers sont eux-mêmes corrélés à un indice de fréquentation des sites. Ce qui veut dire que plus un indice est élevé, plus il sera situé haut dans l'ordre des priorités, des solutions proposées, et plus le site correspondant sera visité. Et ça engendre un nouveau conformisme dont l'usager, pour ainsi dire, le principal vecteur, acteur et destinataire. Donc se dessine ici une sorte de circularité, de fonctionnement médiatique qui laisse peu de place aussi à la distance critique, à l'écart, à la norme et à l'invention de nouvelles pratiques. Donc ce qui se profile, parce que je dois aller vite maintenant, c'est plutôt, me semble-t-il, l'érosion de la figure du sujet au sens le plus politique du terme, à savoir un être social, doué de parole, capable de délibérer avec d'autres sur le monde, de prendre, grâce à cette extériorité de la parole, de la distance par rapport au monde qui l'entoure, pour comprendre justement que le monde n'est pas un donné naturel, quelque chose qui s'impose et auquel il suffirait seulement de s'adapter ou d'accepter dans la perspective de l'acceptabilité sociale. Alors ce changement de statut attribué à l'humain, à partir de ce nouveau rapport à ses productions techniques, ressort très bien d'un numéro des cahiers du numérique, que je cite souvent parce qu'il est très parlant, qui était consacré aux objets communicants. C'est un ingénieur qui parle, et nous sommes en 2002. Alors pourquoi je donne cette précision? C'est parce que il n'y a pas encore tout cet habillage SHS, vous savez, sciences humaines et sociales, qui accompagne aujourd'hui les discours promotionnels de ces technologies. Alors c'est un peu brut de décoffrage, c'est direct, et pour nous, évidemment, c'est bien mieux, parce que les représentations implicites de l'humain sur lesquelles le discours fait fond se lisent plus facilement. Ici, il y a ni mauvaise conscience, ni autre intempérie de ce genre. On y lit donc, et je vais citer, que cette évolution, celle des objets intelligents et communicants, alors je cite, qui a débuté par la prolifération et la diversification des objets, devrait être en fait leur disparition. Et cela n'est nullement un paradoxe. Il s'agit d'une disparition subjective, du point de vue de l'utilisateur, puisque les objets devraient, dans l'idéal, s'effacer devant le service qu'ils offrent, se fondre dans l'environnement d'utilisateur, et cesser d'être en tant que tel l'objet d'attention et d'interaction. Les expressions comme intelligence ambiante, informatique calme, évanescente, environnement attentif, adaptativité au contexte, connotent cette étape de l'évolution. Parler aussi de l'évolution, c'est magnifique. Le fait pour les objets de communiquer entre eux et avec leur environnement revient à mettre, dans toute la mesure du possible, l'utilisateur hors de la boucle, en laissant les objets se débrouiller entre eux. Typiquement, l'information qu'un objet pourra acquérir directement à partir d'un capteur, ou en se synchronisant avec un autre objet, aurait dû être acquise et saisie manuellement par un utilisateur. Si les objets communiquent entre eux avec l'environnement, c'est pour éviter d'avoir à communiquer avec l'utilisateur quand ce n'est pas nécessaire. Et là, il ajoute, élargissant donc la bande passante utile de communication avec celui-ci, en supprimant au passage cette communication redondante et parasitaire. Fin de citation. Alors la question, c'est qui décide de ce qui est nécessaire ou pas que l'utilisateur sache, qui décide de ce qui est parasitaire. Et au passage, on remarquera que le schéma de communication qui prévaut toujours dans cette description des objets intelligents ne diffère pas fondamentalement de celui de Shannon. Il s'agit toujours d'éliminer ce qui est considéré comme relevant du bruit. Le problème, c'est que le bruit, comme l'erreur, l'imprévu, l'écart à la norme, qui peuvent être considérés comme des équivalents de la culture ingénieure, eh bien, ce bruit, c'est une des composantes essentielles de l'intelligence humaine, qui est une capacité à rompre justement avec la naturalité du monde, de la norme, et à prendre de la distance pour produire du sens. Donc le bruit a un grand rôle, comme l'erreur, dans l'intelligence humaine. Alors pourtant, ce modèle-là continue de, on voit bien, de séduire et de séduire. Il exerce comme un effet de fascination qui mériterait d'être interrogé en profondeur. Et c'est là, nous semble-t-il, qu'il faudrait faire porter l'effort, c'est-à-dire travailler sur l'imaginaire et la représentation de l'automatisme dans notre civilisation. Essayer de comprendre les ressorts anthropologiques de cet imaginaire. C'est d'autant plus important qu'existe, comme je l'ai suggéré, un lien fort entre cette fascination pour ce qui fonctionne en mode automatique, sans effort, et l'absence de représentation, par exemple, de l'énergie, donc aussi de la dépense énergétique. Alors, je voulais vous parler du mythe de Carlo, je pense que j'ai plus de temps, j'ai épuisé mon temps de parole, je voulais parler du mythe de Carlo, parce que c'est du mythe de Carlo, parce que ça, il y a quand même quelque chose qui est distant. Je peux encore 2-3 minutes. Je vais finir par une citation de Castoriadis que j'aime beaucoup, sur l'automatisme, sur l'imaginaire lié à l'automatisme dans notre civilisation. Donc l'automatisme plutôt, c'est à proprement parler l'oubli de la dépense énergétique, le subterfuge grâce auquel cette question finalement ne se pose plus. C'est le mythe de l'autosuffisance, du mouvement perpétuel, une absence d'effort. Et c'est un peu, si vous voulez, ça renvoie un peu au mythe du cargo, mais inversé. Alors le mythe du cargo, c'est un culte messianique que les Mélanésiens ont contracté au contact des Occidentaux avec la colonisation. Ça représentait, le culte du cargo, le pouvoir magique des Blancs qui prenait à intervalles réguliers l'apparence d'une profusion de biens débarquant d'un cargo. Et ensuite, ça s'est transformé en attente, celle du jour où les Mélanésiens eux-mêmes seraient capables de produire cette profusion en recouvrant leur pouvoir magique perdu. C'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui avec le placement du pouvoir économique et la mer d'Asie. Alors, cette attente, c'est un peu la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire la croyance en une naturalité de la technique, une magie de la technique où la question de l'énergie, c'est-à-dire encore une fois de la dépense, est absente. À une différence près toutefois, et je terminerai là-dessus, c'est que l'imaginaire associé à la figure de l'automatisme apparaît d'une certaine façon beaucoup plus radical dans ses effets comme dans ses présupposés que celui sur lequel fait fond la pensée animiste dont je viens de parler à propos des Mélanésiens. Et là, je conclurai là-dessus, je résiste pas au plaisir de vous citer Castoriadis, Cornelius Castoriadis, avec sa métaphore, enfin son image du hibou et de l'automate. Voilà ce que nous disait Castoriadis. Traiter un homme en chose ou en pur système mécanique, écrivait-il, n'est pas moins, mais plus imaginaire que de prétendre voir en lui un hibou. Cela représente un autre degré d'enfoncement dans l'imaginaire. Car non seulement la parenté réelle de l'homme avec un hibou est incomparablement plus grande qu'elle l'avait avec une machine, mais aucune société primitive n'a jamais appliqué aussi radicalement les conséquences de ces assimilations des hommes à autre chose que ne l'a fait l'industrie moderne de sa métaphore de l'homme automate. Les sociétés archaïques semblent toujours conserver une certaine duplicité dans ces assimilations, mais la société moderne les prend dans sa pratique au pied de la lettre, de la façon la plus sauvage. Fin de citation. Beaucoup la fin de la façon la plus sauvage, parce que c'est nous qui savons envoyer au monde sauvage. Donc, pour conclure, je dirais qu'avant de chercher les moyens de produire de nouveaux comportements, plus responsables, plus écologiques, plus citoyens, plus participatifs, en agissant sur l'environnement physique des personnes, c'est peut-être sur ce rapport de duplicité qu'il conviendrait d'abord de se pencher, en réfléchissant, par exemple, aux moyens de maintenir, d'entretenir, voire de stimuler ce rapport, cette duplicité, dans notre relation aux objets techniques. Je vais m'arrêter là, je crois que j'ai débordé un peu. Voilà.